Vous écoutez On lit pour vous.
Bien s'informer, c'est comme bien manger. Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 23 février 2025 dans la presse. Une semaine après que Donald Trump eut brandi la menace de droits de douane de 25% sur toutes les exportations canadiennes, le professeur Thomas Leblond a sondé ses étudiants à ce sujet. Celui qui enseigne le marketing depuis 10 ans à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM a demandé à la vingtaine de participants d'un cours de maîtrise s'ils avaient entendu parler de cette nouvelle. Seuls 3 ont répondu par la positive. Un résultat qu'il a jugé extrêmement frustrant. Je n'étais vraiment pas content. J'ai dit « Écoutez, si vous ne savez pas ça, vous pouvez vous désinscrire du cours tout de suite. » Avec le recul, Thomas Leblond fait preuve de plus d'indulgence. Il estime possible que certains étudiants aient été au courant, mais n'aient pas souhaité en parler. Il affirme par ailleurs qu'il ne veut pas condamner ses étudiants pour ça. « Je pense qu'ils sont eux-mêmes démunis », me dit-il devant un café à Montréal. Quelques semaines plus tôt, il avait expédié une lettre à la presse pour exprimer son désarroi. Il y racontait, par exemple, que rares sont les étudiants qui pouvaient lui dire ce que faisait la société Northvolt. Son constat, non seulement ces étudiants sont trop souvent mal informés, mais ils sont aussi nombreux à ne pas savoir où s'informer. Il en est persuadé parce qu'il invite régulièrement depuis plusieurs années tous les étudiants de ses cours au baccalauréat ou à la maîtrise à trouver des nouvelles à commenter en classe. Or, ils arrivent en classe généralement bredouilles. Bien sûr, le phénomène l'inquiète. D'autant plus qu'il constate que bon nombre d'étudiants préfèrent les réseaux sociaux aux médias traditionnels. Ils ont donc accès à une vérité créée par des algorithmes sur laquelle ils se basent pour construire leur réalité, déplorait-il aussi dans sa lettre. Il convient qu'il ne peut pas faire de généralisation à partir de sa propre expérience, mais il estime néanmoins que la problématique dépasse ses cours. Un message du professeur Louis-Philippe Lampron, publié dans Blue Sky il y a près de 3 semaines, confirme que ce que Thomas Leblond constate n'a rien d'exceptionnel. De retour à l'enseignement, après une pause de 3 ans et demi, le professeur de droit de l'Université Laval a demandé à ses étudiants s'ils ont vu passer des nouvelles qui pourraient soulever des enjeux de charte. Il a raconté avoir été interpellé par la suite par une demi-douzaine d'étudiants qui lui ont demandé où on trouve des nouvelles. Le simple fait que des étudiants de bac et de maîtrise viennent me poser cette question. J'avoue que ça m'a vraiment déstabilisé, raconte-t-il en entrevue. Je ne comprenais pas la question initialement. Il a donc dû expliquer aux étudiants qu'il n'avait qu'à consulter les divers médias d'information comme celui que vous lisez en ce moment, ici et ailleurs sur la planète. Ça m'a montré à quel point, dans le nouveau système informationnel, avec la génération à qui on enseigne maintenant, il ne faut pas tenir des éléments comme ça pour acquis. En somme, il ne faut pas seulement demander aux étudiants de suivre l'actualité et de repérer des nouvelles, il est essentiel de leur expliquer comment faire et de leur montrer à quel point c'est important. C'est très simple, et on le voit encore plus avec ce qui se passe avec Trump, le travail d'un administrateur, de quelqu'un qui va faire du développement de marché ou du marketing, c'est de trouver des opportunités. Les meilleurs sont ceux qui prennent des risques. Et pour prendre des risques, il faut que tu t'informes, lance Thomas Leblond. J'ajouterais qu'à une époque où la désinformation circule à toute vitesse, si les jeunes n'ont pas accès à une information de qualité et qu'on ne leur offre pas de formation à l'esprit critique, ils seront forcément plus faciles à manipuler. En cette ère de déconsolidation démocratique, c'est tout sauf rassurant. Thomas Leblond est convaincu que les médias et le système d'éducation doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. Lynn Pagé, présidente du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, y travaille. D'abord, elle signale qu'elle n'est pas surprise par ce que rapportent les deux universitaires. Elle-même a enseigné le journalisme télévisé il y a quelques années. Et devinez quoi? Les étudiants qui regardaient le téléjournal, que ce soit à Radio-Canada, à TVA ou dans les médias étrangers, étaient davantage l'exception que la règle. Il y a des leçons à tirer de ces tendances, explique celle dont l'organisme donne plus de 400 ateliers dans les écoles du Québec chaque année pour aider les élèves à détecter la désinformation. Ce genre de constat montre que, dès le primaire et le secondaire, il faut qu'il y ait de l'éducation aux médias et à l'information. Il faut que les jeunes apprennent à s'informer, dit celle qui a travaillé pendant plus de 35 ans à Radio-Canada. Elle est révolue, l'époque où, dans de nombreuses familles, un journal traînait dans la maison et l'écoute d'un journal télévisé en soirée était une tradition. Autre obstacle qu'on ne peut ignorer. Meta censure les nouvelles sur ses populaires réseaux sociaux au Canada. Je trouve que toute initiative qui empêche des informations vérifiées et valables de circuler est condamnable, affirme Lynn Pagé à ce sujet. Elle termine en évoquant les campagnes sur l'alimentation, qui sont devenues fréquentes au fil des ans. Elles sont nécessaires parce que, dans nos sociétés, où il y a une abondance de nourriture, il faut que tu apprennes à manger les bonnes choses. Or, nos sociétés font aussi face à une surabondance d'informations, phénomène souvent qualifié d'infobésité. Sa conclusion? Il faut apprendre à s'informer, comme on apprend à bien manger. C'était « Bien s'informer, c'est comme bien manger », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 23 février 2025 dans la presse.
Cette règle non négociable de l'argent, un texte de Nicolas Bérubé, paru le 23 février 2025 dans la presse. On dirait que le sujet de l'argent vit en permanence dans le monde du flou. On en gagne, on en dépense, on se fait plaisir, on en manque, on aimerait en avoir plus. Jusqu'à un certain point, c'est correct. On ne vit qu'une fois. C'est ridicule de croire qu'on va être plus heureux si on retire les exceptions et la spontanéité de nos vies. Mais pour que les exceptions et la spontanéité soient réellement agréables et ne se transforment pas en regrets, elles doivent être supportées par des bases solides qui font le gros du travail en dessous. Ce qui m'amène à vous parler des règles non négociables de l'argent. Les ignorer, consciemment ou non, c'est dégrader sa qualité de vie. J'en ai identifié 7, mais il y en a sans doute bien plus. 1. Dépenser moins que ses revenus. Quand on reçoit de l'argent, on ne remet pas 100% de cet argent aux autres, ou pire, 120%. Dépenser moins que ses revenus est la première règle de l'enrichissement. Elle était vraie il y a 2000 ans, et elle est vraie aujourd'hui. On ne s'enrichit pas parce qu'on s'intéresse à la crypto-monnaie, aux mêmes stocks ou à Nvidia. On s'enrichit parce qu'on garde une partie de nos dollars pour soi. 2. Imaginez que chaque achat est invisible. Avant de faire un achat, posez-vous la question. Si j'habitais sur une île déserte et que personne ne pouvait voir ce que je suis sur le point d'acheter, est-ce que je l'achèterais quand même? Si la réponse est non, passez votre chemin, n'y pensez même plus. Ça vous laissera plus d'argent pour les choses qui vous rendent vraiment heureux. L'autrice financière québécoise, Carman Kong, a passé 3 ans sans acheter un seul vêtement. Chaque jour à l'extérieur du travail, elle portait le même ensemble, des leggings noirs et un t-shirt noir. Ça ne provoquait aucun commentaire autour de moi, m'a-t-elle déjà expliqué. On accorde trop d'importance à ce que les autres pensent de nous, alors que les gens ne pensent pas vraiment à nous. 3. Payer son solde de carte de crédit au complet tous les mois. Payer son solde de carte de crédit au complet tous les mois est non négociable. Les taux d'intérêt des cartes de crédit sont tout simplement trop corrosifs pour nos finances. Porter le même jeans jusqu'à ce qu'il tienne debout tout seul et manger des patates pour souper s'il le faut. Si j'avais un solde impayé, je le ferais sans hésiter. Mais de grâce, ramenez ça à zéro. Dans ses pensées pour moi-même, l'empereur romain Marc Aurèle écrit « Ne rougis pas de te reprendre. Il n'est honteux pour personne de cesser d'être dans l'erreur. » Voilà. Il n'y a pas de mal à avoir erré avec ses finances. Il y en a encore moins à vouloir corriger la situation. 4. Avez-vous un enfant dans votre vie? Il vous faut un REEE. Y a-t-il de la nourriture sur votre plancher? Des petites traces de doigts sur les verres dans l'évier? Si la réponse est oui, il vous faut un régime d'épargne études REEE. Un REEE, c'est le gouvernement et le marché boursier qui cognent à votre porte pour vous offrir de payer le coût des études post-secondaires de vos enfants. On peut aller chercher jusqu'à 750 $ de subvention par enfant par année dès sa naissance. Les familles à faible revenu bénéficient de subventions additionnelles. 5. Uber Eats est la récompense qu'on s'offre à chaque tranche de 50 000 $ ajoutée dans nos placements. J'allais écrire 100 000 $, mais j'ai revu ma position. Vous voyez, je grandis. J'effectue un travail sur moi-même. Oui, je sais, Uber Eats et les autres services du genre sont pratiques et agréables. Mais vous savez ce qui est encore plus pratique et agréable? Avoir les moyens d'arrêter de stresser à cause de l'argent. Ne pas craindre une récession ou un boss fou ou une dépense imprévue. Si vous n'avez pas 50 000 $ en placement, vous n'avez pas encore les moyens de payer le salaire d'un chauffeur de taxi privé pour qu'il transporte votre burrito. 6. L'argent est un lien entre le présent et l'avenir. Quand on a 25 ans, on a parfois l'impression qu'on a choisi les bons numéros du tirage, qu'on a reçu le billet jeune, alors que les gens moins chanceux autour de nous ont reçu le billet vieux ou alors très vieux. Bien sûr, tout le monde a déjà tiré le billet jeune dans sa vie. Tout le monde a eu 25 ans. Il y a quelques années, une étude a montré que les gens qui ont plus de facilité à imaginer la personne qu'ils seront dans 10, 20 ou 30 ans étaient plus susceptibles d'épargner que les gens qui avaient moins de facilité à le faire. Donc, pensez à vous dans quelques années. Vos choix d'aujourd'hui ont un impact direct sur votre vie plus tard. L'argent est un lien entre le présent et l'avenir. 7. Acheter des actifs productifs est plus important qu'acheter des actifs improductifs. Le producteur financier canadien Jim Chuang écrit « Placement de 2 millions et maison de 500 000 $ égale bonheur. Placement de 500 000 $ et maison de 2 millions égale misère. » On peut débattre des chiffres, mais il y a du vrai dans cette affirmation. Bien des gens privilégient l'achat d'actifs improductifs comme une résidence principale ou un véhicule neuf au détriment d'actifs productifs comme des parts dans des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse. mais on peut toujours louer un toit. On ne peut pas louer de l'argent. Acheter une maison est un choix de style de vie, pas un aller simple vers l'enrichissement. Si vous voulez acheter une maison, assurez-vous de respecter la règle des 30-33 en immobilier. Sinon, il n'y a aucun mal à être locataire et à solidifier vos fondations financières. C'était « Cette règle non négociable de l'argent », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 23 février 2025 dans La Presse.
Des fouilles dans le Vieux-Québec font ressusciter le fantôme de Champlain. Un texte de Dave Noël, paru le 19 février 2025 dans Le Devoir. Les fouilles archéologiques qui commenceront ce printemps sous la rue de Buade à Québec traverseront un ancien cimetière datant du XVIIe siècle. La découverte d'ossements devant la façade du restaurant Wong va immanquablement relancer le vieux débat et les mauvaises blagues sur l'emplacement du tombeau de Samuel de Champlain. Ça aura le mérite de faire le ménage dans les hypothèses, explique le chercheur Richard Couture en entrevue au Devoir. Pour ce dernier, la question est réglée puisque les ruines de la chapelle sous laquelle le fondateur de Québec a été inhumé à la suite de son décès en 1635 ont vraisemblablement été retrouvées il y a plus de 70 ans à l'arrière du 11 rue de Buade. Il y a un éléphant dans la pièce et on ne veut pas le voir, constate l'auteur de la chapelle Champlain, une étude touffue de géolocalisation publiée l'année dernière aux éditions GID. Aujourd'hui, on cherche partout, sauf à cet endroit. Les vestiges de maçonnerie exhumés entre 1953 et 1957 sont enfouis dans une arrière-cour étroite délimitée par les murs des bâtiments avoisinants. L'endroit est loin de l'écrin de verdure que l'on imagine en songeant au charme du Vieux-Québec. « C'est un local à poubelle », déplore Richard Couture. « Je trouve ça extrêmement malheureux. » Les ruines sont toujours là, à une quarantaine de centimètres sous une couche de béton craquelé. Rien n'a bougé depuis. Je pense notamment à ce que l'archéologue canadien Wilfrid Jury pensait être un fond de cercueil. On pourrait aujourd'hui dater ces restes de bois à l'aide d'une analyse dendrochronologique. L'informaticien de profession espère relancer une quête archéologique devenue tabou à force d'être ridiculisée dans les médias. J'aurais pu m'épargner cette recherche de 4 ans et demi, vu la crainte de perdre de la crédibilité. Je ne fais pas partie du sérail des historiens et des archéologues. Il fallait que ça soit quelqu'un comme moi qui le fasse. Klondike. La recherche du tombeau de Champlain a pris son envol en 1866 avec la parution d'une brochure des abbés Casgrain et Laverdière qui a déclenché ce qu'on appellera la « querelle des antiquaires ». Le débat s'est rapidement resserré dans une zone de moins de 100 mètres aux abords de la mythique réserve d'Aiboust de 1649, évoquée dans les sources. L'énigme semble résolue en 1958 lorsque le dernier boulon d'une plaque commémorative est vissé sur la façade du 11 rue de Buade pour marquer l'emplacement des ruines de la chapelle Champlain exhumée par l'historien Silvio Dumas. Pendant 20 ans, ça a été l'hypothèse officielle. Il n'y avait pas de polémique, rappelle Richard Couture. Le débat est toutefois relancé en 1976 avec la découverte du plan de travail d'un érudit français du 19e siècle, Pierre-Louis Morin, qui situe la chapelle du fondateur de Québec au nord-ouest du site fouillé par Dumas. « C'est à partir de là qu'on s'est enflammé », constate Couture. Toutes sortes de chercheurs s'y sont mis. Cette ruée archéologique s'est arrêtée net en 1999 avec le percement d'un mur donnant sur la chambre froide du restaurant Wong, où l'on pensait retrouver le caveau de Champlain. Cet épisode a brûlé le sujet jusqu'à aujourd'hui. On ne s'est jamais dit, et si on revenait à l'endroit où on était avant la découverte du faux plan? ADN. La chapelle Champlain aurait été démantelée dans les années 1660 ou au début de la décennie suivante. Pour Richard Couture, il est inconcevable que les contemporains aient laissé la dépouille du père de la Nouvelle-France sur place. C'est le bon sens qui veut qu'on ait déplacé ses restes dans la nouvelle église qui était juste en face, dit-il. Champlain se trouverait ainsi au sous-sol de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, dans l'un des trois ossuaires de maçonnerie aménagés dans le courant du 19e siècle. Sa dépouille serait mêlée aux ossements anonymes des cimetières avoisinants qui y ont été déversés à la suite de leur fermeture. L'identification du fondateur de Québec n'a rien d'utopique, selon Richard Couture. Il est désormais possible de déterminer la provenance de certains restes humains, dit-il. On pourrait encore collecter de l'ADN. La dépouille de Champlain pourrait également être identifiée à partir de l'un de ses fémurs, qui porterait vraisemblablement la marque d'une flèche iroquoise reçue lors d'un combat livré dans la région des Grands Lacs en 1615, comme l'expliquait l'archéologue Carl Lavoie au Devoir en 2018. Au fait, que ferions-nous des restes de l'explorateur si l'on parvenait à les retrouver au fond de l'un des ossuaires de la basilique? On pourrait faire un gisant dans l'une des chapelles de Notre-Dame de Québec, comme celui de Monseigneur de Laval, lance Richard Couture en parlant de ces monuments funéraires où le défunt est statufié sur le dos. Ce mausolée serait fréquenté, si l'on se fie à la popularité de l'explorateur et géographe, dont l'aura de tolérance lui a permis de traverser les siècles sans trop d'égratignures. Le Champlain dévot de la contre-réforme catholique en surprendrait toutefois plus d'un s'il était cloné à partir de ses ossements. Il avait le projet de faire de Québec une ville exemplaire, un peu comme Maisonneuve à Montréal, explique Richard Couture. En même temps, c'était un humaniste. Il avait à cœur de s'entendre avec les peuples autochtones. Nécropole. Les fouilles prévues sous la rue de Buade, entre mai et novembre 2025, se dérouleront dans le cadre de travaux de réfection des infrastructures souterraines d'Hydro-Québec. La municipalité en profitera pour remodeler les trottoirs achalandés de cette artère touristique qui s'étire sur 150 mètres entre l'Hôtel de Ville de Québec et le bureau de poste de la côte de la Montagne. Entre 200 et 250 sépultures se trouveraient toujours dans le périmètre de l'ancien cimetière Sainte-Famille, 1657-1841, qui longeait cette rue du côté sud de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. C'était « Des fouilles dans le Vieux-Québec font ressusciter le fantôme de Champlain », un texte de Dave Noël paru le 19 février 2025 dans Le Devoir.
La Caisse et Kanamwaké veulent investir dans les énergies renouvelables. Un texte de La Presse canadienne paru le 3 février 2025 dans Espace autochtone. Le Conseil des Mohawks de Kanamwaké, CMK, et la Caisse de dépôt et placement du Québec, CDPQ, veulent investir conjointement dans des projets d'énergie renouvelable. Les partenaires ouvrent également la porte au financement de projets situés sur d'autres communautés autochtones. Le Québec doit produire plus d'électricité afin de décarboner l'économie et répondre à la demande croissante. De nombreux projets se situeront sur les territoires revendiqués par des communautés des Premières Nations, et celles-ci seront appelées à devenir partenaires. Hydro-Québec prévoit des investissements d'entre 90 milliards de dollars et 110 milliards de dollars afin d'augmenter sa production selon son plan stratégique 2035. Alors que nous commençons cette nouvelle phase de développement, c'est important d'inclure les Premières Nations, plaide le grand chef du CMK, Cody Diabo, en entrevue. C'est notre territoire où les projets seront construits. C'est nos ressources. Il reste que l'accès au capital pour financer des projets de cette envergure représente un défi pour les différentes communautés. Le CMK a donc décidé d'approcher la Caisse afin de créer un partenariat. Le partenariat participerait à des projets sur les territoires traditionnels des Mohawks de Kanawake, mais il pourra également apporter des ressources à d'autres communautés autochtones qui le souhaiteraient. Ils peuvent servir aussi d'exemple pour d'autres Premières Nations pour venir profiter du montage qu'on est en train de faire et pour étendre ça en dehors des projets qui impacteraient les Mohawks de Kanawake, explique Emmanuel Jacquelot, premier vice-président et chef des infrastructures à la CDPQ. Le CMK a déjà une expérience de participation à un projet énergétique. Le Conseil et Hydro-Québec ont annoncé en avril dernier que la communauté détiendrait une participation minoritaire dans la ligne d'interconnexion Hertel-New York visant à exporter de l'électricité à l'État de New York. M. Diabo estime que le partenariat pourrait financer au moins deux projets dans les prochaines années, mais il souligne qu'il n'y a pas de limite au nombre de projets auxquels les partenaires pourraient participer. Il évoque une possible rénovation ou un agrandissement de la centrale de Beauharnois en Montérégie. C'est quelque chose qui serait assez important pour nous et nous serions partants à y participer, dit-il. C'est le long du fleuve Saint-Laurent. C'est notre territoire traditionnel. M. Jacquelot souligne que le développement de projets énergétiques est quelque chose qui prend du temps. Si les partenaires réussissaient à participer à un ou deux projets par an, ils jugent que cela représenterait un succès. On fait ça pour gagner de l'argent à la caisse, poursuit le vice-président. Donc, il n'y a pas de limite. Tant que ce sont des projets qui sont rentables, on sera content de les faire. C'était « La Caisse et Kanawake veulent investir dans les énergies renouvelables », un texte de la presse canadienne paru le 3 février 2025 dans « Espaces autochtones ».